Et nous retrouvons Marion pour une nouvelle chronique culture par chez nous. Marion, bonjour.
Salut Rodolphe.
Chaque mercredi de l'été, Haute-Corrèze, Communauté et Radio Vassivière vous font découvrir des trésors de notre territoire, des associations, des événements, des initiatives culturelles ou des sites qui font vibrer la Haute-Corrèze et que nous souhaitons vous partager. Pour cette nouvelle chronique culture par chez nous, Marion, nous remontons le fil du temps il y a environ 2000 ans.
Et oui, aujourd'hui nous sommes au 2e siècle après Jésus-Christ, nous sommes sanctuaires et statues, nous sommes celtes et romains, nous sommes pelles et truelles, nous sommes archéologues et Indiana Jones. Enfin, presque.
On n'a pas de chapeau colonial, on n'est pas avec des chemises blanches toutes propres. Indiana Jones, c'est un pilleur en fait, hein. Il s'intéresse à l'objet, nous l'objet... On est content quand on le découvre, mais ce qui nous intéresse, c'est son contexte archéologique et stratigraphique pour essayer de mieux comprendre ce qu'il fait là et qui l'a amené, dans quelles conditions.
Sans chemise blanche et sans chapeau, certes, mais armé de notre fidèle micro, nous voilà partis rejoindre l'archéologue Simon Giron sur le site antique des Pièces Grandes. Depuis 7 jours, Simon fouille et farfouille ce site avec deux de ses collègues. C'est là qu'il nous a donné rendez-vous, au beau milieu du site en plein chantier. Nous sommes sur la commune de Margeride, à quelques encablures des gorges de la Haute-Dordogne. Après un sentier dans les sous-bois, nous arrivons dans une clairière baignée de soleil. Un peu partout, des murets de granit émergent du sol enherbé, semblant dessiner le plan d'anciens bâtiments.
Des vestiges de 1, 2, 3 temples, 2 ou 3 plus petits bâtiments qu'on appelle les édicules, qui pourrait être soit quelque chose lié à l'activité religieuse. Tout cela délimité par un mur d'enceinte, un peu moins bien construit que le reste. Et derrière nous, un autre bâtiment qui s'appuie contre le mur d'enceinte, qui pourrait être un bâtiment d'accueil, mais qui à l'époque n'avait pas livré grand-chose. Et nous, on n'a pas repris de sondage pour l'instant dessus. Donc en tout cas quand même un sanctuaire bien identifié, notamment par la présence des temples qui sont assez caractéristiques des lieux de culte de l'époque romaine en Gaule.
Des temples assez caractéristiques. Mais à quoi ça ressemble des temples caractéristiques de l'époque romaine ? Pas facile de les imaginer à partir de ces quelques vestiges de murets.
La forme architecturale, on le voit là, hein, face à nous, quand on peut voir le site, c'est deux carrés inscrits l'un dans l'autre, une cella centrale, le mot est latin, hein, cella, c'est la chambre de la divinité, où normalement devait résider la statue de la divinité, entourée par un autre carré, donc, qui était lui plutôt une galerie. Généralement, on le restitue ouvert vers l'extérieur par une colonnade, par des poteaux de bois. Là, les murs du temple principal sont bien construits. C'est ceux qui sont les plus jolis, en moellons de petits appareils cubiques, hein, bien renforcés aux angles par des moellons de moyen appareil qui sont bien taillés aussi. C'est vraiment des pierres de taille. Donc on parle de plans centrés pour ces temples qui sont vraiment caractéristiques de l'époque romaine.
Je m'imagine il y a 2000 ans. L'Empire romain, à son apogée, s'étend sur la France. Les Lémovis, c'est-à-dire les Gaulois ou les Celtes qui habitent ce territoire limousin, adoptent peu à peu les mœurs et les pratiques religieuses de leurs occupants. Dans les élites d'ici, c'est certainement la grande classe d'avoir le style romain. On peut penser que les pratiques religieuses gauloises et romaines se mêlent alors joyeusement. D'ailleurs, ce sanctuaire, s'est-il vraiment construit à l'époque romaine ? N'y avait-il pas déjà quelque chose avant que les Romains n'arrivent, durant l'époque gauloise ?
Pour l'instant, nous, on n'est pas encore allé assez profond dans les sondages à l'intérieur du temple pour pouvoir certifier cette présence de niveau d'époque laténienne, la fameuse époque gauloise. À revoir, mais de ce qu'ils avaient sorti, eux, c'était pas si probant que ça pour assurer qu'il y avait, eu un lieu de culte plus ancien.
Eh oui, car Simon et ses deux collègues ne sont pas en train de fouiller le site pour la première fois. Cela fait plus de 70 ans que ce site éveille la curiosité. Remontons en 1950. En travaillant sa terre, un agriculteur de Margeride tombe sur un bloc de granit. Il vient de découvrir le site archéologique des Pièces Grandes. À l'époque, Marius Vazey, archéologue amateur et grand érudit réputé dans la région, s'y intéresse. 15 ans plus tard, le groupe spéléologique et archéologique du Camping Club de France et les Amis de Val se rendent sur cette prometteuse parcelle pour y commencer les premières fouilles. Des fouilles conviviales qui réunissent pendant 10 étés, sous la houlette de Jacques Syrah, plus d'une centaine de jeunes et de moins jeunes, d'érudits et de simples curieux, autour d'un projet, percer le secret de ces pierres et de ces objets qui surgissent sous leur pelle.
Mais c'est ce qui fait un des intérêts majeurs du site de Margeride, c'est qu'ont été retrouvées effectivement plusieurs sculptures en pierre et en bronze, en assez bon état de conservation, ce qu'on a peut-être moins sur d'autres sites du Limousin. Hein. Donc plusieurs statues qui ont été trouvées surtout à proximité du plus grand temple, qui pourrait correspondre à sa période d'activité à lui, qui représente soit des divinités, notamment la plus célèbre c'est celle de Cernunnos, hein, qui est une petite statuette en alliage cuivreux, soit des personnages en train d'accomplir des actes religieux. Et ça, je reviens un peu dessus par rapport à ce qui avait été identifié lors des fouilles précédentes. C'est des choses assez caractéristiques aussi des sanctuaires antiques. Hein. Les dévots, quand ils venaient, offraient à la divinité des représentations humaines qui n'étaient pas forcément individualisées. Hein. Ça peut être des personnages standardisés en train d'accomplir des actes religieux pour commémorer le bon déroulement de leur... acte motif du rituel accompli.
Mais alors si des fouilles ont eu lieu dans les années 60, dans les années 70 et même dans les années 80 et que ces fouilles ont déjà permis de mettre à jour ces trois temples, ces petits édicules, cette enceinte, ce bâtiment d'entrée et de nombreux objets dont de belles statues de divinités et d'offrandes, pourquoi reprendre des fouilles maintenant ?
C'est à la demande de la commune de Margeride, de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté et du service archéologique de la Direction régionale des affaires culturelles que Simon Giron, de la société EVA, est venu poursuivre les recherches sur ce site des pièces grandes. Objectif ? Guider une réflexion sur la meilleure préservation et la meilleure mise en valeur de ce lieu. Et oui, on pense aussi à toi, Rodolphe, lors de ta venue sur le site. Que te raconter pour que tu puisses mieux l'apprécier ?
Le site... On le constate, hein, il a un état sanitaire médiocre, hein, il est en train de se détériorer hein, malgré les restaurations qui ont été faites, forcément. Hein, on est dans un endroit où il y a de l'humidité, où il y a du gel, où il y a parfois de la neige, des murs qui sont laissés à nu, ben, les mortiers se fatiguent et se détériorent. Donc ça fait partie d'une des interrogations qu'on a à nous et auxquelles il faut qu'on réponde, c'est l'état sanitaire du site, qu'est-ce qui a été restauré, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la suite, après les interventions archéologiques, pour mettre en valeur le site d'une meilleure manière. Donc il faut qu'on fasse toutes ces observations pour dire voilà ce qu'on peut faire ensuite pour améliorer la mise en valeur.
Et pour mieux préserver et mettre en valeur, il est indispensable de mieux connaître. C'est tout l'enjeu de ces 2 semaines de fouilles que mènent Simon et ses 2 collègues sur le site des pièces grandes. Ils sont arrivés avec pelles, truelles, bâches et tentes lundi 22 juin et ils repartiront vendredi prochain. 9 jours de fouilles pour faire quelques sondages, 3 ou 4 exactement.
On a fait des sondages manuels, hein, on n'a pas du tout eu recours à un engin mécanique, ce qu'on fait beaucoup en archéologie maintenant, hein, quand il s'agit de fouiller des épaisseurs de remblai notamment, on les fouille plutôt à la pelle mécanique, hein, pour nous soulager un peu le dos quand on est souvent sur le terrain. Là, en l'occurrence, on a fait que des sondages manuels, assez réduits, puisqu'on était limité par notre autorisation à 30 mètres carrés, et puis de toute manière, on est limité par le temps aussi, on est là que 9 jours, ça limite un peu les possibilités d'ouverture.
Simon et ses 2 collègues n'ont donc que 9 jours, 4 trous, 30 mètres carrés, leur pelle et leur truelle pour trouver des indices qui leur permettront d'en savoir plus sur le site. Mais comment savoir où creuser ? Comment déterminer à l'avance ce que l'on va chercher pour être le plus efficace possible ? Simon a lu et relu les rapports des fouilles des années 60, 70 et 80. Il sait où il va et il sait ce qu'il cherche. D'abord, il veut essayer de mieux comprendre comment ont été menées les fouilles précédentes et jusqu'où elles ont été menées. Hé, c'est le charme des fouilles sur les fouilles. Il s'agit non seulement de comprendre le site gallo-romain d'origine, mais aussi ce qui s'est passé ensuite, la manière dont il a été fouillé et restauré. Simon veut pouvoir distinguer précisément ce qui date d'il y a 2000 ans et ce qui est le fruit des restaurations pratiquées dans les années 70. Car, ne nous méprenons pas, les murets qui nous font face ne sont pas tout à fait antiques.
D'observer les maçonneries, les fondations et de voir à quel point les murs ont été restaurés. Est-ce que on se rend compte, c'est qu'ils ont été, tout ce qu'on voit, tout ce qui est actuellement visible sur le site, ce n'est entièrement que de la restauration, voire de la restitution, hein, puisque tout n'était pas conservé comme dans l'état qu'on le voit actuellement. Hein.
Simon veut aussi vérifier jusqu'où les premières fouilles ont été menées, et si elles ont été menées suffisamment en profondeur. ne pourrait-on pas retrouver encore des niveaux d'occupation plus vieux, signe par exemple d'une occupation gauloise qui aurait préexisté au sanctuaire romain? Un des sondages va permettre cette poursuite plus en profondeur des premières fouilles.
Et on espère trouver des, pourquoi pas, des niveaux d'une occupation antérieure, hein, ce qui eux avaient, semble-t-il, perçu et ce qui nous interroge encore. Donc on est encore en cours de fouille pour essayer de voir si on va trouver ces niveaux antérieurs.
Simon souhaite également profiter de ces fouilles pour repréciser le plan d'ensemble du sanctuaire.
Le travail qu'on a à faire, forcément, parce qu'il y a une évolution des méthodes, c'est d'améliorer le plan des vestiges. Parce que forcément, eux n'avaient pas les mêmes méthodes que nous. On a maintenant des outils de relevé topographique beaucoup plus précis. Hein. On a accès à tout ce matériel-là de topographie. Donc on va arriver à redresser un plan un peu plus précis, alors qu'eux faisaient que par des mesures de latération. Hein. À partir d'un axe qu'on considérait orthogonal, on prenait des mesures pour situer une autre structure. Et ça, forcément, à force de cumuler ce genre de relevé, on a une imprécision qui s'agrandit au fur et à mesure. Donc notamment sur le mur d'enceinte, on a essayé de le rechercher dans les bois comme eux l'avaient fait, et c'est, oui, d'après les plans comme on les avait resitués nous, ça ne fonctionnait pas, hein. Il fallait reprendre les choses depuis l'origine.
Les trois archéologues sont ainsi partis dans les sous-bois à l'ouest du site pour trouver la poursuite du mur d'enceinte. Pour l'instant, le résultat reste mitigé.
Et on a effectué quand même un sondage à l'extérieur de la zone restaurée, dans la forêt, pour essayer de retrouver le mur d'enceinte, sa prolongation dans la parcelle en forêt actuelle. Il s'avère que on est retombé sur un des sondages qu'ils avaient fait en 1988 et qu'on tombe sur quelque chose qui est un peu déroutant, qui n'est pas le mur lui-même, peut-être une tranchée de récupération, mais qui a... Donc on ne comprend pas encore totalement. Est-ce que c'est lors de leur sondage qu'ils l'ont en partie démonté pour l'observer et qu'ils l'ont recomblé après? Ou alors est-ce qu'ils ont trouvé ça comme ça? C'est un peu difficile à définir encore.
Venir 2 semaines sur le site permet aussi à l'équipe d'archéologues de regarder différemment les découvertes faites lors des fouilles précédentes. Les statuettes notamment. Surgissent de nouvelles hypothèses sur les pratiques religieuses qui pouvaient avoir lieu dans ce sanctuaire.
Mettre les pieds sur le terrain, ça aide forcément à mieux comprendre ce qui a été vu avant et à l'analyser d'une autre manière, avec les connaissances actuelles. Donc ça a forcément, cette étape de revenir sur le terrain, elle était indispensable pour essayer de proposer de nouvelles hypothèses. Parce qu'ils ont dégagé des structures qui expliquent comment, à mon avis, on circulait à l'intérieur du lieu de culte, quelles étaient les circulations privilégiées. Ils ont trouvé des statues qui peuvent nous donner des indices sur les divinités qui étaient honorées, notamment le personnage féminin assis, qui avait été identifié comme une déesse mère. Bon, c'est très imprécis ce terme de déesse mère, mais pouvait être une des divinités honorées, même si on n'a pas, la statue n'est pas d'une taille si importante que ça, mais ça peut être une des pistes à explorer. Et après, un nombre d'objets qui a été découvert et conservé, qui serait intéressant à revoir, hein, pour voir s'il n'y a pas des traces de gestes rituels dessus, parce que dans l'Antiquité, on offrait, mais pour offrir, on accompagnait d'un geste, des fois on brisait les objets, des fois on perçait les objets, tout un tas de petits indices qui n'ont pas forcément été relevés à l'époque, mais qui seraient intéressants à revoir.
Au-delà des recherches sur le lieu de culte, Simon aimerait en savoir également plus sur la vie qui pouvait entourer ce sanctuaire. Était-ce un sanctuaire isolé au milieu de pâturages ? Était-il entouré de villas ou proche d'une petite ville ?
Dans quel environnement il s'insère, c'est bien la question qu'on se pose. Les fouilles précédentes avaient mis au jour un autre bâtiment à l'extérieur du mur d'enceinte, ce qui voudrait dire potentiellement qu'il n'appartient pas au lieu de culte. Mais il peut lui être lié pour l'activité, ne serait-ce que pour l'accueil des personnes qui venaient ici ou pour le logement d'un gardien. Bon, tout ça, c'est des questions qu'on se pose légitimement quand on est dans un lieu de culte antique. Sauf que les fouilles anciennes n'avaient pas trouvé quelque chose de bien caractérisant, qui pouvait caractériser l'occupation. Donc il y a une forme de bâtiment qui est incomplète, qui ne ressemble pas à des bâtiments qui seraient standardisés. Donc, pour moi, ça reste totalement ouvert à l'interprétation de ce bâtiment. Mais il nous dit que, sans doute, on est dans quelque chose d'un peu plus vaste, d'un peu plus grand que le lieu de culte isolé, comme beaucoup de chercheurs pensaient qu'il l'était. En se baladant un peu dans la forêt, on voit rapidement qu'il y a des murs qui traînent, il y a des terrasses qui ont été établies. Bon, elles peuvent être plus récentes, mais il y a un potentiel d'étude, à mon avis, assez important dans ces forêts alentour, hein, sur lesquelles les recherches pourraient porter dans les années futures. Quel type d'environnement après, est-ce que c'est juste des habitats liés à l'activité religieuse, c'est possible? Est-ce que c'est une agglomération un peu plus importante? Est-ce que c'est une villa, une grande villa qui est à côté? C'est possible, on a tous ces cas de figure qui existent en Gaule, donc il va falloir poursuivre les recherches pour essayer d'y répondre.
Alors, à l'issue de ces fouilles, dans quelques jours, aura-t-on découvert une première occupation gauloise de ce sanctuaire romain? En saura-t-on plus sur le plan d'ensemble de ce lieu de culte et sur le tracé de son mur d'enceinte? Aura-t-on plus d'hypothèses sur les pratiques religieuses qui animaient ce site, les dieux qui y étaient honorés et la manière dont ils étaient honorés? Aura-t-on trouvé de nouveaux indices permettant de mieux comprendre l'environnement de ce site religieux, isolé ou entouré de toute une vie fourmillante?
Avec de tels monuments, hein, les ruines d'Écart, le sanctuaire de Margeride, on pourrait pousser plus loin à l'échelle du plateau, même jusqu'au sanctuaire du Pilotard à Saint-Pierre-Bellevue. On voit qu'il y a déjà il y a du monde qui vit, qui pratique des activités religieuses, qui est enterré avec des mausolées assez importants. Donc il y a une certaine élite qui habite le secteur, qui a des propriétés foncières dans le secteur, qui investit dans la monumentalisation des lieux de culte, hein, puisqu'on a un lieu de culte assez important ici. Tout ça montre que oui, le secteur est assez richement mis en valeur à l'époque romaine.
Je sens votre âme d'archéologue qui s'éveille. À l'issue de ses fouilles, Simon rédigera un rapport qui fera la synthèse de ses découvertes et présentera ses nouvelles hypothèses. Il reviendra aux Journées du patrimoine, présenter le site et ses dernières investigations à tous les curieux qu'il souhaite. Alors à noter dans vos agendas, ce sera le samedi 19 septembre à 15h. Détails pratiques, pensez à réserver au 06 98 64 30 80. Vous retrouverez toutes les infos sur la page Facebook de Haute-Corrèze Communauté. Et en attendant, si vous voulez découvrir les pièces grandes, n'hésitez pas à passer à Margeride, le site archéologique est en accès libre toute l'année. Et si vous voyez des endroits où la terre est toute retournée et l'herbe pas encore repoussée, eh bien maintenant, vous savez pourquoi? C'est que Simon et ses deux collègues ont creusé par là.
Ok Marion, je réserve d'ores et déjà une place pour la visite du 19 septembre. Je suis impatient de savoir ce que Simon Giron, l'archéologue DVA, aura finalement découvert sur le site antique des pièces grandes. Et en guise de conclusion, comme tu ne peux décemment pas nous remettre la musique du générique d'Indiana Jones, le pilleur, qu'as-tu trouvé comme clin d'œil musical final?
C'est un trio aux voix envoûtantes, un peu rock, un peu folk, un peu au-delà de toute frontière. On n'a qu'à se laisser transporter. Ce groupe s'appelle UATA. Ils joueront sur le site des pièces grandes le mercredi 15 juillet prochain, à 20h30, à l'occasion d'un concert de Séma Tournée. Un concert porté par la FAL 19, les Lendemains qui chantent, Haute-Corrèze Communauté et le foyer rural de jeunes et d'éducation populaire de Margeride. Un beau moment en perspective, gratuit et ouvert à tous, alliant site archéologique et musique. It's a hour of the wolf, it's a moment of absence when the void breaks.
keep on.